un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons. Je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 9 février 2026 et je vous présente cette chronique du groupe Fred Zeller dans laquelle nous allons commencer par une note de lecture d'un livre qui a été écrit par Alain Boer et dont le titre est « Trump, le pouvoir des mots ». Et en exergue cette citation du rituel de maître secret 4e grade du REAA, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Vous ne forgerez plus ni n'accepterez plus d'idoles humaines pour agir aveuglément sous leur incitation. Vous déciderez vous-même de vos pensées et de vos actions et vous ne confondrez point les mots et les idées. Vous efforcerez toujours de découvrir sous le symbole l'idée que vous aurez comprise et reconnue comme acceptable. Voici donc cette note de lecture qui a été rédigée par notre camarade Christian Echet. Dans cet ouvrage, l'auteur, que l'on ne présente plus dans les milieux maçonniques, d'où l'exergue en tête de cette note de lecture. Donc, l'auteur que l'on ne présente plus dans les milieux maçonniques défend la thèse que, loin de la vulgarité odieuse affichée de Donald Trump, il y a derrière son vocabulaire « shit », entre guillemets, une pensée, en tout cas une politique de communication organisée. Alain Boer apporte incontestablement de l'eau à ce moulin, et c'est cela qui fait le plus vomir. Ce n'est pas la seule bassesse de son être qui se fait se conduire comme cela, le 45e et 47e président des États-Unis. C'est une stratégie délibérée, voulue par les think tanks réactionnaires au plus haut point, qui le conseillent. Le véritable mentor de « l'homme à la tour » est l'avocat Roy Cohn, qui fut conseiller politique du sénateur McCarthy. Nous y revenons. La stratégie de Trump est d'attaquer en permanence les individus en leur donnant des surnoms méprisants. Il les attaque sur ce qu'il voudrait qu'ils soient. Il les attaque dans leur être même. On voit bien, à travers ce cas, la vraie différence entre le fascisme et le stalinisme. Les staliniens s'attaquaient aux consciences pour les faire taire. Les fascistes attaquent les individus pour ce qu'ils sont ou qu'ils définissent comme tels pour les détruire. Le trumpisme est bien un fascisme. L'auteur fait une analyse précise de plusieurs dizaines de mots ou expressions du vocabulaire de Trump. Citation. Les phrases courtes, les répétitions obsessionnelles, les superlatifs systématiques constituent les éléments d'un système rhétorique conçu pour court-circuiter les mécanismes de la délibération rationnelle. Fin de citation. Cette méthode consiste à prendre la population pour un ramassis de demeurés à qui l'on parle en insufflant des réponses démagogiques qui les flattent, ce qui leur évite de penser et de raisonner par eux-mêmes. C'est la méthode de tout appareil bureaucratique, et cela, par contre, est commun au fascisme et au stalinisme. Citation, « On pense pour vous, ne pensez pas, on s'en charge pour vous, vous n'avez qu'à suivre et à obéir. » Fin de citation. La discussion se réduit à des mots d'ordre qu'il faut suivre et aboyer. À la fin de la lecture de cet ouvrage, puisqu'on est dans l'ignominie la plus complète dans ce qui est analysé sur Donald Trump, la question surgit inéluctablement, qu'est-ce qui est pire ? Est-ce Donald Trump dans ce qu'il apparaît être, ou bien est-ce le fait que des gens gobent comme des mouches ces discours honteux qui en appellent à ce qu'il y a de plus bas dans l'homme ? Il faut lire ces discours qui sont publiés à la fin de l'ouvrage pour être édifié. Et il faut s'accrocher pour ne pas jeter ses orduries à la poubelle et prendre un grand bol d'air frais pour tenir sa respiration jusqu'au bout, tellement cela sent mauvais. Mais le fait que l'auteur de l'ouvrage les ait insérés est une œuvre salutaire à elle toute seule, il faut l'en remercier. À leur lecture, c'est encore pire que ce que l'on pensait. On comprend pourquoi Trump est le modèle à copier pour l'extrême droite dans notre pays. Leur copyright nous annonce leur programme. Inutile de dire que ceux qui s'extasient devant le « génie » entre guillemets de Trump sont à mille lieues de la formule du rituel du maître secret. Les mots fraternité, éthique, morale, solidarité, courtoisie, respect sont pour eux visiblement des insultes et des gros mots. On a envie d'écrire sur les murs quasiment les mêmes mots qu'au moment du printemps de Prague contre le totalitarisme. Albert Pike revient, ils sont devenus fous. Une histoire écrite au verso de l'histoire américaine. L'auteur a bien fait de mettre en ouverture de son ouvrage la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Ce que l'on vit actuellement de l'autre côté de l'Atlantique en est exactement le contrepoint, mot pour mot, quand sont cités dans celle-ci les griefs contre le pouvoir de l'Angleterre oppressive et coloniale. Citation. Il a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population des États-Unis. Dans ce but, il a mis empêchement à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers. Il a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établissement de pouvoirs judiciaires. Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté pour la durée de leurs offices et pour le taux de leurs appointements. Il a abdiqué le gouvernement de notre pays en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre. Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos concitoyens. Fin de citation. Pardon, ça continue encore une phrase. Un prince dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran est impropre à gouverner un peuple libre. Fin de citation, cette fois. Trump est la négation pure et simple de la Déclaration d'indépendance et de ce pourquoi les États-Unis ont été fondés. Alain Bauer estime que quand Donald Trump ne faisait que du business et il se comportait, réfléchissait et parlait comme les élites new-yorkaises et sa transformation en battleur de foire populiste est sans doute une des opérations de communication les plus audacieuses et d'un choix stratégique délibéré. C'était des citations, ces expressions. Dans l'ouvrage est publié un des premiers discours trumpistes qui montre cela. Ce discours porte sur la question de la frontière, qui s'inscrit pleinement dans la légende. Dans la culture nord-américaine, border, la frontière, est un mythe qui appelle à son dépassement en permanence, aller toujours plus loin. Trump soutient alors cette vision. C'est un peu ce qu'expliquait sur un autre plan Marcel Pagnol quand il faisait dire à Edmond des Papillons dans « La gloire de mon père » « Ah, tu veux aller voir ce qu'il y a derrière la colline ? Les hommes ont toujours voulu voir ce qu'il y avait derrière. » Plus tard, Trump dira exactement le contraire en déclarant qu'il était le meilleur pour bâtir des murs et que les Mexicains allaient payer pour cela. Bien sûr, c'est une citation. La frontière n'est alors plus un appel au large et au dépassement, mais une volonté de fermeture et de répression. Ces discours sont des discours vulgaires de guerre civile, avec l'ajout d'un égoïsme hors du commun. C'est d'une vantardise absolue et bouffie d'orgueil qui rappelle les boniments des marchands d'ustensiles inutiles sur les marchés. On pourrait presque se mettre à plaindre Trump. Il a dû vouloir une enfance malheureuse. Il a dû avoir une enfance malheureuse. On lui a volé son 4 heures dans tous les jours. On peut faire toutes les analyses les plus fines que l'on veut et décortiquer toutes les stratégies qui pourraient sous-tendre les propos et méthodes de Trump. Il est pour moi une évidence. Ce mec est d'abord et avant tout un dingue brutal, cynique, menteur, ce qui montre sa grande fragilité. D'où la rage folle qui le prend quand on le surnomme « taco », entre guillemets, acronyme de « Trump always chicken out ». Le Trump se dégonfle toujours, pour la traduction. Tout cela ne peut se finir que par un drame. Tous les mécanismes habituels des institutions américaines et des contre-mesures de la société sont balayés comme des fétus de paille, et au bout du compte, il restera seul. Le roi sera nu. Pour avoir un peu étudié, parce que cela me passionne, dit donc Christian Hachin qui rédige cette note de lecture. On voit que tous les éléments de la Civil War, la guerre de sécession, sont en train de s'assembler à nouveau, car le pays est divisé en deux parties qui s'ignorent de plus en plus, qui n'ont plus rien en commun et qui s'affrontent de manière croissante, de plus en plus violente. On va inéluctablement vers une deuxième guerre de sécession, qui sera encore plus destructrice que la première, car ce ne seront plus les États qui s'affronteront, mais des parties entières de la population, dans une fracture de classe déterminante entre oppresseurs et oppressés, entre exploiteurs et exploités. Toute la question est comment les USA pourront-ils surmonter les dégâts à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale, interne et internationale. That is the question. En guise de conclusion, pourrait-il y avoir une meilleure conclusion de ce voyage en absurdie, vulgarité et mépris du peuple que celle que tire Laure Murat dans Le Monde du 6 février 2026, où elle écrit dans un article intitulé « Face à Trump, les citoyens de Minneapolis donnent une leçon de démocratie » On peut lire ces extraits avec bonheur. Peu importe de savoir si Trump est fou ou fasciste ou les deux. Ce que vivent les États-Unis, désormais aux mains d'une oligarchie sans vergogne ni pitié, est la plus grande crise institutionnelle que son histoire ait connue. Car c'est tout le système qui branle. Hypertrophie de l'exécutif qui gouverne par décret, affaiblissement de tous les contre-pouvoirs, menace sur la séparation de l'Église et de l'État et attaque en règle sur les libertés civiles. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus un État de droit. On tue des manifestants pacifistes. On déporte les citoyens détenteurs de permis de séjour légaux et des enfants de 5 ans. On arrête des journalistes en train de faire leur travail. On ligote l'université en lui coupant les vivres et en lui imposant un enseignement officiel où, comme au Texas, le banquet de Platon est banni du programme pour promouvoir l'idéologie de la race et du genre. Depuis des semaines, la population de Minneapolis, bravant un froid polaire, proteste contre la présence et les agissements de l'ICE, donc la police de l'immigration, ayant déjà causé la mort de deux habitants innocents de 37 ans, René Good et Alex Pretty. Munis de sifflets pour signaler la présence d'agents prêts à intervenir, organisant des concerts la nuit à proximité de leur lieu de repos pour les empêcher de dormir, armés de téléphones pour enregistrer leurs exactions, les citoyens ont montré une détermination exemplaire et donné une leçon de démocratie précisément. C'est un tournant considérable, à peine un an après l'élection de Trump, qui doit être pris pour exemple pour un modèle d'avenir. Car c'est de la rue, et de la rue seule, du sursaut citoyen, de la conscience populaire, et non d'une femme ou d'un homme providentiel dont on attend en vain le surgissement, que viendra la réponse capable d'enrayer le cataclysme en cours. Fin donc de cette longue citation. Certains en France, au pouvoir, ou lui servant d'auxiliaires zélés et subsidiaires, devraient réfléchir à cela. Quand on pratique l'intolérance, l'exclusion, la xénophobie, comme les vertus cyniques, la morale et l'éthique se rappellent toujours à vous, tôt ou tard, et le peuple est toujours l'instrument de la justice, car pour paraphraser une devise célèbre, le peuple est mon droit. Voilà, fin de cette note de lecture sur le livre donc d'Alain Boer, Trump, le pouvoir des mots, note de lecture donc de notre camarade Christian Eschen, et donc suit sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée les informations pour pouvoir se procurer ce livre. Voilà. Alors, je voudrais maintenant en venir donc à un article qui est paru dans une revue dont j'ai déjà parlé dans une précédente chronique, c'est peut-être bien d'ailleurs celle de la semaine dernière. Je veux parler de la revue L'Idée Libre qui, dans son dernier numéro, présente un dossier, la séparation des Églises et de l'État, retour au texte, avec toute une série de textes, et je crois, lu dans cette précédente chronique, le texte d'Aristide Briand, L'heure de la séparation. Et aujourd'hui, c'est un article de Jean-Marc Chiappa que je voudrais porter à votre connaissance, ou du moins en partie, si on ne peut pas le lire en totalité. Un article intitulé « La non-application de la loi de 1905 en Algérie ». C'est important parce que c'est un aspect qui est un peu méconnu. Donc, la loi de 1905 en France est systématiquement présentée comme une loi de civilisation, de progrès, de lumière. Or, elle ne fut jamais appliquée dans les colonies que, pourtant, la France estimait devoir civiliser. C'est ce qu'on montrera ici à partir d'un exemple emblématique, l'Algérie. Voici donc ce que dit Jean-Marc Chiappa. L'application de la loi de 1905 pour l'outre-mer a été traitée lors des débats parlementaires, Maroc et Tunisie exceptés, le protectorat excluant de l'administration française les questions religieuses. Donc là, on reprécise, hein, Jean-Marc Chiappa reprécise le statut du Maroc et de la Tunisie, qui sont des protectorats, alors donc que l'Algérie est une colonie. Ainsi, l'article qui deviendra l'article 43 sur les dispositions en Algérie est voté le 30 juin. Et très symptomatiquement, lors de la dernière séance, l'abbé Lemire affirme « Comment faites-vous alors pour sauvegarder l'ordre public en Algérie ?» Cet article stipule « Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies. » Le sénateur d'Alger, Paul Gérante, affirme lors des débats « Une loi d'un caractère si large, comportant des principes aussi graves, si elle est bonne pour la métropole, est bonne également pour l'Algérie. » Le règlement d'administration publique, autrement dit un décret pris après l'avis du Conseil d'État, délègue le problème au gouverneur et pour l'Algérie, le gouvernement général et le ministère de l'Intérieur. Il écarte le Parlement. La convention de capitulation signée entre le général de Bourmont, ministre de la guerre de Charles X à la tête de l'expédition militaire, et le dey d'Alger, comportait l'engagement de la puissance coloniale à respecter le libre exercice de la religion musulmane. Citation : l'exercice de la religion mahométane restera libre, la liberté de toutes les classes d'habitants, leur religion, leur propriété, leur commerce, leur industrie ne recevront aucune atteinte. Non, c'est ça date du 5 juillet 1830. La civilisation, entre guillemets, passe par le façonnement des cultes. En 1910, Alfred Le Châtelier, l'une des éminences grises de la Troisième République sur les questions musulmanes, rappelle que, citation, « c'est par l'Algérie que nous avons pris contact avec l'Afrique musulmane. En 80 ans, nous y avons fabriqué un islam unique au monde. » Fin de citation. Au passage, sommes-nous loin des tentatives faites en France depuis une vingtaine d'années de, entre guillemets, « fabriquer un islam unique au monde ». Ernest Roux, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, exprimera que la transposition de la loi de 1905 à l'islam des colonies était anachronique. La société coloniale devait être préalablement transformée par un processus de sécularisation. Par conséquent, seule la proclamation symbolique des principes généraux de la loi semblait opportune. En revanche, la réglementation cultuelle offrant plus de liberté religieuse était présentée comme inadaptée à la entre guillemets, civilisation des populations indigènes de l'AOF. Citation, autant il peut être utile de promulguer les dispositions de principe du titre premier de la loi donc de 1905 qui traduiront aux yeux de tous la sincérité de nos intentions et confirmeront la promesse de respecter les croyances, les coutumes et les mœurs de nos sujets. Fin de citation. Là, on rappelle les principes, mais on les ampute de leur application. Ainsi, la neutralité politique de l'État en matière religieuse, la liberté de conscience, le libre exercice du culte furent repris dans le décret du 27 septembre 1907 qui l'appliqua à l'Algérie, mais accordait des indemnités aux religieux. Or, les uns ne peuvent être dissociés des autres. Un principe sans moyen de l'exercer ne vaut pas. Des raisons d'ordre politique nous font une obligation de ne pas appliquer aux musulmans la loi du 9 décembre 1905, lit-on sous la plume du gouverneur général Ernest Roux. On verra que les hauts fonctionnaires en Algérie parlent de, entre guillemets, « notre domination » à propos de l'Indochine. Le ministre des colonies écrit « Il est dangereux pour notre domination de donner aux indigènes, par une promulgation sans réserve, la possibilité de transformer en association légale des sociétés secrètes. » Fin de citation. Dans la plupart des colonies, la séparation de fait déjà existante rend peu intéressante l'introduction de la loi de 1905, alors au contraire qu'il serait utile d'y introduire celle de 1901 sur les associations. La raison, l'accaparement des terres par les missions, d'où le silence du législateur sur leur personnalité civile, parce que cette absence de personnalité est une arme redoutable dont l'État n'entend pas se priver à l'égard des missions sur le dossier relatif au droit des biens. Pas de personnalité, pas de droit d'acquérir. L'Algérie départementalisée est un cas particulier, mentionné explicitement dans la loi de 1905, ce qui renvoie à leur charge d'étude ceux qui affirment que l'islam n'était pas concerné en 1905. Que lit-on dans un rapport présenté au gouverneur général de l'Algérie début 1907 par André Maginot, futur ministre de la guerre et efficace initiateur de la ligne à laquelle il donna son nom. Citation. Les différences que vous avez pu relever entre la loi et le projet de décret, qui ne sont ni essentielles ni définitives, ont pour but d'approprier la nouvelle législation à la situation spéciale de l'Algérie et de permettre à M. le gouverneur général, à qui incombe la responsabilité des intérêts de notre domination, de prendre, lorsque les circonstances l'exigeront, les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. Fin de citation. Dans ce texte, entre hauts fonctionnaires, guère besoin de circonvolution, il s'agit de préserver notre domination, avec tous les guillemets donc qui conviennent. Le décret du 27 septembre 1907, rédigé par le gouverneur général Jonnart, déterminant les conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des églises et de l'État et l'exercice public des cultes, précise Toutefois, dans les circonscriptions déterminées par arrêté pris en Conseil de gouvernement, le gouverneur général pourra, dans un intérêt public et national, accorder des indemnités temporaires de fonction aux ministres désignés par lui et qui exercent le culte public en se conformant aux prescriptions réglementaires. Fin de citation. Ce décret de 1907 fut prorogé par les décrets du 19 septembre 1917, du 31 août 1922, du 25 septembre 1932 et sans limite de durée du 19 mai 1941. Il fallut attendre une circulaire du 13 juillet 1909, signée par le président du Conseil Georges Clemenceau, pour avoir une position gouvernementale sur l'islam algérien. Pour le personnel religieux, l'octroi d'indemnités devait être soumis à l'agrément du gouverneur. De cette façon, selon les termes de la circulaire, l'action directe que l'autorité supérieure doit conserver sur le recrutement du personnel du culte musulman pourra s'exercer ainsi d'une manière aussi efficace qu'à l'aide d'un véritable droit de nomination et sans qu'aucune atteinte soit portée au principe de la législation nouvelle. Fin de citation. Le gouverneur Jonnard, qui après avoir dit qu'il n'était pas totalement favorable à la mise en vigueur de la loi, en jugeait l'application difficile et se trouva un allié en la personne de Mgr Houri, archevêque d'Alger, invité avec une partie du clergé à participer au débat. Seront ainsi trouvés, citation, les tempéraments indispensables qu'exige la situation de l'Algérie et qui sont de nature à sauvegarder l'avenir de notre colonie. Notre colonie, rarement possessif, n'aura mérité autant son titre. La revendication de séparation devint celle des musulmans comme l'association des oulémas, des nationalistes comme Messali, des républicains ou de la libre pensée qui regroupaient sans aucune distinction en son sein. Charles Luteau, gouverneur général en Algérie entre 1911 et 1918, écrit « Toutes nos méthodes de gouvernement, toutes nos mesures d'administration depuis que l'Algérie a été déclarée terre française ont gardé l'empreinte de ce principe de ces principes d'acheminement vers le droit commun. Tout le colonialiste tient dans ce mot « acheminement ». Un jour, l'égalité entre guillemets. Un jour, toujours renvoyé au lendemain. Or, quelle est la principale caractéristique de la loi de 1905 ? La liberté de conscience qui ne peut se fragmenter suivant les individus alors que l'inégalité entre citoyens français et indigènes est codifiée et qu'elle justifie, si l'on ose dire, la colonisation. Cette liberté de conscience s'exerce dans la non-reconnaissance des cultes et dans leur non-financement. Mais accorder, ou plus exactement reconnaître la liberté de conscience aux entre guillemets, indigènes, c'est les reconnaître comme citoyens autonomes, majeurs. S'ils sont majeurs, le droit à l'indépendance s'inscrit comme possible. La liberté de conscience est contradictoire au colonialisme. Introduire la loi de 1905 dans le système colonial aurait fait exploser ce dernier. Est-ce une manière de souligner la portée révolutionnaire de cette loi ? Et Jean-Marc Chiappa termine son article sur cette donc question. Voilà. Donc, c'était un texte qui m'a semblé particulièrement important à porter à votre connaissance. Et je voudrais terminer cette rubrique en vous faisant part de l'éditorial du nouveau numéro de La Raison, donc La Raison qui est la revue mensuelle de la Fédération de la Libre Pensée. C'est donc, il est signé de Benoît Steckenburger, qui est le président de la Fédération nationale de la Libre Pensée, et il est titré « Pour remettre la conscience du monde sur ses pieds ». Lecteur, lectrice de ce nouveau numéro de La Raison, tu vas découvrir une libre pensée plus diverse, plus internationale, plus combative que l'on ne l'imagine souvent. La raison critique reste une pratique vivante, ancrée dans des histoires concrètes et des luttes très actuelles. Critique sociale contemporaine, combat féministe, bataille pour la laïcité. Le dossier consacré à l'Association confédérale des groupes philosophiques libres, en Allemagne, pose une question décisive. Comment organiser un mouvement laïque et humaniste sans sacrifier ni le pluralisme ni l'unité d'action ? Entre mémoire du nazisme, critique des églises d'État et pratique obstinée du débat contradictoire, Volker Müller montre que tolérance interne, respect des identités associatives et conflits argumentés peuvent devenir des forces structurantes plutôt que des faiblesses. En filigrane, c'est toute une pédagogie de la dispute démocratique qui se dessine, précieuse à l'heure où les mouvements laïcs peinent parfois à articuler désaccords de fond et front commun. Restons en Allemagne, avec les textes et analyses consacrés à Max Evers, en qui la libre-pensée retrouve une de ses figures majeures, pour qui il ne pouvait y avoir d'antifascisme réel sans perspective de révolution sociale. De la lutte contre le nazisme jusqu'à la réflexion sur le rapport au parti ouvrier, Evers s'incarne dans un moment où libre-penseurs et socialistes rêvent d'un même horizon d'émancipation, au prix parfois de la prison, de la torture et de la mort. Ses écrits aujourd'hui publiés par l'IREL n'a rien de commémoratif. Elle offre des repères pour penser face au retour des extrêmes droites, l'articulation entre indépendance laïque, critique du capitalisme et unité d'action des forces progressistes. Evers a aussi défendu la liberté de la crémation, comme le rappelle le texte qu'il a publié en 1922. Le choix des funérailles condense des enjeux philosophiques, politiques et sociaux de premier ordre. Il montre comment s'est opéré le passage d'une poignée de militants défiant le monopole ecclésial sur la mort à une puissante organisation prolétarienne assumant son athéisme conséquent. La crémation reste aujourd'hui comme un champ de lutte contre l'alliance de l'Église et de l'État et du capitalisme funéraire. Si nous, une double exigence, arracher à l'Église son capital symbolique sur la mort et faire de chaque caisse mutuelle crématiste non pas une simple assurance low cost, mais une école de combat pour l'émancipation intellectuelle et sociale des classes populaires. Il n'y a pas libre pensée sans une réflexion sur le corps et sa dignité. Lutte contre les crimes du clergé en Italie, réflexion sur les lacunes dramatiques de la prévention des violences sexuelles, mobilisation pour une France sans sida, débat autour de la crémation et des doctrines religieuses du corps. Aussi bien les rapports internationaux que les récits militants et associatifs engagent une même analyse, refuser que le corps soit à la fois instrumentalisé par les institutions religieuses et oublié par des politiques publiques défaillantes, revendiquer pour chacun et chacune la maîtrise de sa vie, de sa mort, de sa sexualité, de sa santé. Le combat pour la libre pensée aujourd'hui se déroule en terrain miné, entre l'héritage néocolonial qui anime certains, prompt à dénoncer derrière tout musulman l'islamisme politique radical et les partisans d'une pensée autoproclamée décoloniale, déployant avec confusion une autre forme d'identitarisme. Il reste difficile de tracer une voie raisonnable. La résistance à l'obscurantisme doit rompre avec la tentation de réduire la critique laïque au seul cléricalisme catholique ou islamisme politique. Marx évoquait la religion comme conscience inversée du monde. Il faut replacer les phénomènes religieux dans un paysage plus large où se rencontrent crispation identitaire, mémoire coloniale refoulée, misère sociale et recomposition des droites radicales. Enfin, il n'y a pas de libre pensée sans une dimension culturelle comme le trace ici notre portrait de Leonard Cohen, figure à la croisée du judaïsme, de la poésie et de la contestation et qui a souvent rappelé que la libre pensée ne se vit pas seulement dans les combats institutionnels, mais aussi dans les œuvres qui accompagnent, inspirent et parfois consolent ces luttes. La libre pensée aujourd'hui ne se résigne pas à défendre la laïcité comme principe abstrait, mais la déploie dans les formes concrètes de la vie, dans les associations, les livres, les rituels funéraires, la justice pour les victimes, les combats sanitaires, les musiques qui nous relient, pour que la raison, enfin, ne soit pas qu'un mot d'ordre, mais un principe, une pratique partagée. Elle n'est certes pas une valeur, mais un principe qui permet l'émancipation des autres ordres. Voilà, c'est donc l'éditorial signé Benoît Schneckenburger, président de la Fédération nationale de libre-pensée, pour ce nouveau numéro de l'Idée libre. Voilà, nous en arrivons donc maintenant à la fin de cette chronique et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à Antoine pour la technique.
En forgeant un socle charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la libre-pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine dès lundi 11h30.
Elle tient ton glaive près.